Paul Arène. Le canot des six capitaines. Chapitre 1. Le naufrage du Singe Rouge. Le vent d'Est faisait rage autour du Bigorneau. « Aveuglez les sabords !» commanda Lancelevé. Aussitôt, les sabords s'aveuglèrent. Un faible jour, de seconde en seconde interrompu par l'assaut alternatif des vagues, arriva seul à travers l'épais cristal des hublots. Les six compagnons se rassirent et le festin continua. « À votre santé, colonel !»« Messieurs, mes amis, je suis touché, mais ne m'appelez pas colonel !» On remplit les verres de nouveau. « À votre santé, capitaine !» Et, radieux cette fois, Lancelevé salua et dit « Messieurs, capitaine, à votre santé !» Presque au même instant et par les mêmes parages, un imperceptible petit yacht, le Singe Rouge, battait de l'aile dans la tempête. Un homme se tenait à la barre, le reste de l'équipage, deux hommes en tout, buvait et trinquait dans la cabine relevée en bosse sur le pont. Toutes les fois qu'il y a gros temps, les marins trinquent. « À ton roman nautique, » disait l'un. « À ta grande symphonie maritime, » disait l'autre. « Aux mots goudronnés que tu collectionnes. Au bruit de tempête que tu noies. Mettons à sec, puisque la prudence ordonne de délaisser le navire, cette vieille dame Jeanne vêtue d'osier tressé. Et laissons Fabien constater une fois de plus que la Méditerranée n'est pas bleue. » Soudain, Fabien, l'homme de la barre, cria « Terre ! Quelle terre ? Antibes ! Cap sur Antibes ! Vous savez bien que je ne sais pas barrer, » répondit Fabien. « Très basse, va barrer pour cet imbécile de peintre !» dit au romancier le musicien qui lui-même s'appelait Miravaille. Arrivé sur le pont, Très basse à son tour s'écria « Miravaille, viens voir !» Miravaille, jamais nous ne pourrons entrer dans Antibes. Et ça, depuis notre dernier voyage, le port est devenu trop petit. À cette invraisemblable nouvelle, Miravaille, haussant les épaules et murmurant « Ils sont gris tous deux », quitta, non sans peine, son poncho kirsch et sa cabine, tout imprégnée d'une fine odeur de citron, d'alcool brûlé et d'amandes amères. Mais Très basse avait dit vrai. Jamais de mémoire de loup de mer, hallucination plus singulière. En face d'eux, à travers la poussière d'eau, l'écume et les vagues, c'était bien Antibes que voyaient nos trois navigateurs, mais un Antibes plus petit encore que l'Antibes réel, lequel n'est pas grand, un Antibes en raccourci, un Antibes de Lilliput. À part cela, même jeté, même port, et même phare crépi de blanc, porté à bras tendus par le même môle. « Allons, pensa tout haut Miravaille devant ce spectacle. Il faut que je sois gris pour ma part. Pourtant, quand je suis gris, j'ai l'habitude de voir double. Or, c'est ici le contraire qui arrive. » Il était trop tard pour reculer. Mené grand train vent arrière, couché sur le flanc, sa quille presque à l'air et son foc labourant la vague, le Singe Rouge faisait feu sur l'eau, comme disent les Antibois, et filait d'une incroyable vitesse vers le fantastique petit port. « La barre à bâbord, droit sur le chenal !» Le Singe Rouge enfila le chenal. Arrêt subi, craquement sinistre. Du même coup, l'équipage se sentit jeté en l'air par le choc et cueilli au vol par la lame, tandis que le petit yacht, engagé de tout son avant entre le môle et la jetée, demeurait immobile et comme retenu dans la grosse pince d'un gros crabe. « Oh, mer bleue, voilà de tes coups !» soupirait le peintre en retombant. Puis il ouvrit les yeux, considéra le récif où les flots l'avaient roulé et murmura « Récif bizarre, on le dirait en bois. De plus, il sonne creux et sans la cuisine. Hey, »« Hé, du récif ! Hola, du récif !» À ce moment, juste sous ses pieds, le récif s'ouvrit en trappe ronde et, ruisselant, des algues dans les cheveux, pareil à Ulysse le jour de son naufrage, l'infortuné peintre dégringola. Chapitre 2. L'entrepont mystérieux. Dans le mystérieux entrepont où six capitaines, dont un colonel, se réjouissaient autour d'une soupe de poisson. « J'ai faim !» dit le peintre en manière de salut. « Un naufragé ! C'est un naufragé ! Qu'on recommence la bouillabaisse !» Faites-la double, insinua le romancier qui s'insinuait lui-même par le trou d'homme resté ouvert. Et n'y épargnez pas les oursins, il en pousse autour de votre navire, ajouta le musicien en montrant ses doigts tout hérissés de petites pointes comme une pelote lait d'aiguille. Le mot de navire flatta, paraît-il, l'amour-propre des habitants du Bigorneau, car Lancelevé, Saint-Égousse, Escragnole et Varangone en rougirent visiblement de plaisir. Mais celui d'Oursin, prononcé à propos de bouillabaisse, réveilla dans le cœur des capitaines Barbe et Arluc leur vieille querelle endormie. L'art de la bouillabaisse, comme tous les arts, a ses romantiques et ses classiques. Arluc, homme d'ordre et d'autorité, qui pour un rien en appelait au sabre, et qui, jardinant, grommelait « Mon eucalyptus va trop loin, je lui supprimerai une feuille », du même ton que s'il eût commandé l'état de siège et qu'il se fût agi d'un journal, Arluc tenait furieusement pour la bouillabaisse des anciens jours, la bouillabaisse aux six poissons, la bouillabaisse sans hérésie, celle que les premiers Antibois inventèrent jadis dans une calanque, après la pêche, entre trois pierres, sur un feu clair de brindilles et de pain. Barbe, au contraire, on le soupçonnait d'être républicain, sacrifié volontiers, en fête de bouillabaisse, à l'esprit de désordre et de nouveauté. Il trouvait que quelques oursins ajoutés ne font qu'agrémenter son parfum et ne se gênait pas pour le dire. Des oursins dans la bouillabaisse, c'est bon cela pour les Parisiens. Parisiens qui ne les aiment pas. Capitaine Barbe, capitaine Arluc. Et déjà les favoris se hérissaient. Mais Lancelevé coupa court à l'incident. Ne nous disputons pas à propos d'oursins, capitaine. D'ailleurs, ce n'est pas à des oursins que monsieur s'est piqué les doigts, c'est à des cactus, des aloès et des figues de Barbarie. Cette judicieuse remarque eut l'art d'apaiser les deux capitaines. D'autre part, elle dérouta fort nos trois naufragés. Voyant autour d'eux des sabords et des hublots, des câbles roulés dans les coins, un tronçon de mât qui traversait la salle, des parois exactement vernies, avec des rames, des cartes et des harpons accrochés, respirant partout l'odeur du goudron, admirant la tenue exactement nautique des hôtes du Bigorneau, il s'était cru jusque-là dans l'entrepont d'un navire que la Providence aurait placé, juste à point pour les recevoir, au-dessous de leur involontaire cabriole. Mais quel étrange navire qu'un navire où tout le monde est capitaine et qui navigue ainsi au travers des figues de Barbarie, des aloès et des cactus. Chapitre 3. Quelques récits de voyage. Les trois naufragés n'eurent pas le temps de pénétrer ce mystère, non plus que celui du port d'Antibes, subitement rétréci. La bouillabaisse arrivée, fumante, est servie dans une de ces énormes nacres que les pêcheurs des mers latines emploient en guise de plat. Une vapeur safranée envahit la salle, laissant deviner, plutôt que voir, les morceaux blancs des langoustes et les morceaux plus bruns des rascasses sur les tranches de pain spongieuses et tout imbibées d'un jus couleur d'or. Devant chaque convive furent placées des assiettes primitives en écorce de chêne liège, toujours à la mode des pêcheurs latins, et le romancier, qui nota la chose pour son roman, fit remarquer avec sagacité que c'était là un excellent système, vu qu'en cas de naufrage, on pouvait se sauver sur la vaisselle. Ouvrez le feu, messieurs les naufragés, et faites comme à votre bord. La recommandation était inutile. Vous, Escragnole, méfiez-vous de la langouste, mauvais pour la goutte, ça pique aux jambes. Mauvais pour la goutte et bon pour l'amour, interrompit le galant capitaine Varangode. Capitaine Varangode, méfiez-vous de l'amour. Mais, en face d'une langouste, Escragnole et Varangode étaient inaccessibles à la crainte. Le capitaine Barbe, toute querelle oubliée, piochait la bouillabaisse comme si elle eût été exclusivement composée d'oursins, et le capitaine Arluc comme si personne n'eût jamais songé à introduire des oursins dans la bouillabaisse. Lancelevé semblait communiquer à la table entière quelque chose de son affectueux appétit. « Ah, quand j'avais de l'énergie, soupirait-il à chaque assiété, j'aurais mangé en un repas 15 bouillabaisses pareilles. » Mais je n'ai plus d'énergie maintenant. » Et pour mieux prouver sa faiblesse, l'honnête homme donnait des coups de poing formidables qui faisaient tressauter les verres et les bouteilles se heurtaient. Saint-Égousse, être bilieux, jetait bien entre-temps aux naufragés certains regards de défiance. Mais les naufragés avaient mieux à faire qu'à gober au passage les regards bilieux de Saint-Égousse. Seule la bouillabaisse prédispose déjà qui s'en nourrit à de fortes gasconnades maritimes. Elle est pire, arrosée de vin de la Gaude, cet amer nectar antibois. Les trois naufragés mangeaient bien et buvaient sec. Aussi, quels récits, quelles aventures! Tourmentes et typhons, le maelstrom et les glaces, poulpes gigantesques et vastes serpents de mer, naufrages et sauvages, tout y passa. C'était pourtant, comme on le verra par la suite de l'histoire, trois simples canotiers de Seine-et-Marne, égarés en mer, et certes, bien reconnaissables à leur chapeau de paille orné d'une corne fantasque que surmontait un petit drapeau. Mais eux-mêmes se faisaient illusion en mentant, et les six capitaines ne demandaient pas mieux que de les croire. Sur les côtes de Dahomey où nous échouâmes, disait le musicien, il fit si chaud cette année-là qu'on voyait les homards se promener, rouges à point, sous l'eau transparente des criques. Et le Spitzberg, le froid polaire, reprenait en duo le romancier. Un jour de Noël, bloqué par les glaces et les ours dans notre cabane d'hivernage, nous voulûmes, en souvenir du pays, déboucher une bouteille de champagne, notre dernière. C'était, remarquez-le, à côté d'un poêle chauffé à blanc. On décoiffe la bouteille, on coupe la ficelle, le bouchon saute, la mousse jaillit. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, capitaine, mais à peine sorti, instantanément, la mousse se change en un flocon de neige, avec le bouchon en équilibre tout au bout. Mensonges épiques, mais le peintre les éclipsa en racontant son évasion d'entre les mains de certains océaniens anthropophages. Nous étions deux, soupirait-il, voix émue, regard tourné vers le passé. Nous étions deux. Nos bourreaux décidèrent que mon compagnon serait mis en broche le premier. Non qu'il fût plus gras, au contraire. Mais il était anglais, et les gourmets du pays préfèrent à tous les matelots anglais, qui, généralement, sont parfumés aux genièvres. Comme ici les grives. Précisément, ce fut même ce qui me sauva. Écoutez, écoutez. Ce qui me sauva, disais-je, car à peine les membres du malheureux eurent-ils fini de descendre dans ces ésophages tatoués, je vis, du cocotier où on m'avait lié, les monstres repus danser et rire, faire d'inexplicables gestes, esquisser des pas sans raison, et finalement se rouler par terre, en proie à des convulsions épouvantables. Ils étaient empoisonnés? Ils étaient gris. Oui, capitaine. Saturé jusqu'aux cheveux d'alcool et de gin, futaille ambulante, éponge vivante, mon infortuné compagnon, mon matelot, les avait grisés. Cependant, la tempête semblait se calmer au dehors, le vent soufflait moins fort, les paquets de mer tombaient moins drus, et plus la tempête se calmait, et plus, grâce au vin de la Gaude, le bigorneau semblait exagérer son double mouvement de roulis et de tangage. La suite! La suite! Criaient les six capitaines, suspendus aux lèvres de Fabien. On but au hardi marin, à l'équipage du singe rouge. Fabien, triomphant, raconta la suite, et cela d'un tel accent de sincérité, avec une telle éloquence, qu'à la fin, l'anse levée ne voulait plus l'appeler qu'amiral. Chapitre 4. Le bigorneau et la castagnore. Au plus fort de l'enthousiasme, deux coups retentirent. Toc, toc, frappé d'une main légère. « Entre, Cyprienne !» dit l'anse levée. Soudain, dans la paroi de ce navire étrange, une porte se révéla et plusieurs rayons de soleil qui se pressaient au dehors depuis la fin de la tempête voulurent entrer tous à la fois. Ébloui d'abord par leur irruption tapageuse, Fabien, de son œil de peintre, distingua bientôt une terrasse plantée de fleurs, une courge montée en treille avec ses fruits pendants, semblables à d'énormes huîtres, et dans ce cadre imprévu, sur le fond joyeux d'un ciel déjà pur et d'une mer encore doucement agitée, Mademoiselle Cyprienne Lancelevée, qui, tout en saluant, se reculait devant la fumée de bouillabaisse et de tabac que ce malappris d'entrepont soufflait à son charmant visage. « Trois naufragés, mademoiselle ma fille !» Mais, voyant ses hôtes stupéfaits de plus en plus, le bon colonel ajouta « Il paraît qu'on y a été pris tout de même. Vous vous croyez à un vrai bord. De la part de marins comme vous, l'erreur est flatteuse pour le bigorneau. » À l'extérieur, le bigorneau, comme l'appelaient nos six capitaines, était quelque chose d'inusité, d'ambigu, tenant le milieu entre la maison et le navire. Cette maison, vernie et goudronnée, possédait des sabords au lieu de fenêtres, un pont au lieu de toit, des plats-bords au lieu de gouttières, et, en place de la cheminée, un mât de goélette avec sa vergue, ses haubans, sa drisse et sa flamme. Ce navire, bâti dans l'échancrure d'une îlette, c'est ainsi que là-bas se nomment les presqu'îles, et ouvert sur la mer par sa terrasse, avait les trois autres côtés, son pont et son toit, au niveau du sol, ce qui, permettant aux lames de le recouvrir dans les gros temps, procurait à ses heureux possesseurs l'agrément sans danger des plus violentes émotions maritimes. Du reste, une triple haie courroucée, ou plutôt une triple vague, un triple remous, un triple tourbillon de figuiers de Barbarie, de cactus et d'aloès l'entouraient, de sorte que, même par le calme, cette bizarre construction avait l'air d'un navire en train de sombrer dans une tempête de plantes intertropicales. Les naufragés admirèrent le bigorneau. Ils durent encore admirer le petit port, aussi pareil au port d'Antibes que la Troie en raccourci d'Andromaque, Parva, Pergama, l'était à l'ancienne Troie, le petit port, cause innocente du naufrage et dont l'avant historié du singe rouge bloquait toujours le minuscule musoir, ils durent admirer enfin, à sec sur le quai, près d'une ancre énorme, le canot des six capitaines, la triomphante Castagnore, pour qui le port avait été creusé et le bigorneau bâti. Tout cela, bigorneau, port et Castagnore, création et propriété du cercle nautique, fondée 2 ans auparavant par Lancelevé et ses 5 amis, pour développer dans la région antiboise le goût des choses de la mer. Certes, depuis 2 ans, l'entrepont continental du Bigorneau avait été le théâtre de maintes joyeuses bouillabaisse où l'on buvait, entre capitaines, à la prochaine mise à l'eau de la Castagnore. Mais hélas, depuis 2 ans, le port restait vierge et la Castagnore ne partait pas. Quand venait l'heure de la mise à l'eau, toujours quelqu'un des capitaines se trouvait empêché. Saint-Égout soignait ses oranges, Escragnol, ayant trop soupé, criait la goutte, Varangode se déclarait faible, sans oser avouer pourquoi, Barbe ressentait quelques vagues atteintes rhumatismales, ou bien une forte colère avait subitement rouvert les blessures d'Arluc. D'un autre côté, le règlement était formel. La Castagnore ne devait prendre la mer qu'avec son équipage au complet, les 6 membres du cercle nautique Raman et Mademoiselle Cyprienne à la barre. Bourgeois et patrons de barque commençaient à rire dans Antibes. Comment faire? Mais patience, Lancelevé, toujours vert, toujours à son poste, venait le jour même d'être nommé président à vie du dit cercle et, foi de colonel, non de capitaine, maintenant les choses allaient marcher. Car, vous l'avez deviné, ce n'est pas précisément par modestie qu'on a vu, au premier chapitre de cette histoire, Lancelevé repousser le titre de colonel et préférer celui plus humble de capitaine. Pour un président de cercle nautique, officier de terre en retraite et qui veut jouer au loup de mer, colonel est une appellation gênante, quoique glorieuse. Colonel vous classe tout de suite son homme dans l'artillerie, le génie ou l'infanterie. Tandis que capitaine... Ah, capitaine! Avec capitaine, il y a moyen de se faire illusion. Capitaine de quoi? De frégate, sans doute. Aussi, depuis que M. de Vauban a rebâti les remparts d'Antibes et fait cette aimable petite ville, ville de garnison, depuis qu'une colonie s'y est établie, colonie toujours renouvelée de vieux soldats, attirée là par la beauté du ciel et la chaleur du soleil, depuis que ces vieux soldats devenus marins à force de regarder la mer et essayant d'allier le déhanchement maritime à leur vieille roideur militaire, ont pris l'habitude de dire tribord et bâbord au lieu de flanc droit et flanc gauche et de compter par nœuds leurs étapes, Antibes est l'unique ville du monde où les capitaines retraités se félicitent de n'être que capitaines et où les colonels ne veulent pas être appelés colonels. Chapitre 5. Un petit port de mer. C'est charmant, Antibes. Un port, un môle, un phare, tout comme au Bigorneau, mais un peu plus grand cependant. Et d'agréables remparts s'élevant juste ce qu'il faut pour offrir une belle vue aux promeneurs qui font leur tour quotidien des courtines. Le petit phare est si petit qu'il n'éclaire guère que lui-même. Le petit môle n'embrasse de la mer que ce qu'une si petite ville peut en désirer. Le petit port ne reçoit que des tartanes et, de temps en temps, un brick goélette que les gens du pays, bons provençaux, appellent invariablement brigoulette. Il y a une place à Antibes, la Grande Place, avec une vieille tour sarrasine qui, s'ennuyant toute seule derrière les maisons, regarde par-dessus les toits, tout le long du jour, ce qui se passe de neuf au café de la Marine. Et quel silence partout! À peine troublé dans les rues par le soupir qu'arrache la brise aux frêles palmes de quelques dattiers, penchés sur le mur d'un jardin ou l'auvent d'une épicerie, et par le bruit du lot des lavoirs qui jaillit, limpide, et puis s'en va, coulant en ruisseau au milieu des rues, sans s'ensanglanter devant les fabriques de coulis, du jus des tomates pressées. À la porte marine, sur le pré de la Prudhomie, une chaudière fume, pleine de temps pour teindre en brun les voiles. Des filets sèches étendus. Amarrés le long du quai, les tartanes restent immobiles, au-dessus de leur immobile reflet. Un bateau entre, tout se révolutionne. Les coques dansent, les mâts s'inclinent, et leur longue image s'en va, serpentant dans l'eau claire, avec une flamme rouge au bout. Mais tout cela sans bruit, sans qu'un cordage crie, sans qu'un bordage grince, comme si Antibes tout entière, la ville et le port, craignez de donner l'éveil aux crabes velus ou aux poulpes que guette là-bas ce vieux pêcheur, un roseau à la main et jambes nues dans l'eau. Puis de jolis noms, l'Ilette, la Gravette, diminutif bien choisi pour une petite ville qui ne rougit pas d'être petite ville, et partout quelque chose d'aimable et d'intime, rendu plus intime encore par le contraste du ciel profond, de la grande mer, des Alpes immenses et de Nice, dont on aperçoit là-bas, visible dans une brume d'argent, entre les Alpes et la mer, la longue ligne de Maison-Blanche. Chapitre 6. La Méditerranée est-elle bleue ? S'éloigner d'Antibes n'est pas facile. Le lendemain, quand on eut dégagé le goulet du Bigorneau, remis à flot sans trop d'avarie le singe rouge, et qu'après une tournée de taffia des îles, il s'agit enfin de partir, Fabien prit à part ses deux camarades et, se promenant le long de la grève, il leur dit « Mes chers amis, voici 3 mois que, sur la foi de vos récits, je cours les côtes de Vintimille à l'Estérel dans l'espoir de voir bleu une fois et de peindre bleu cette Méditerranée que tes romances, pardonne-moi ma franchise, Miravaille, et de tes romans, excuse-moi, tes basses, prétendent, à tort, être bleus toujours. Or, je l'ai vu successivement, suivant l'heure du jour, la disposition des nuages, l'état des vagues et du vent, laiteuse et blanche à faire croire qu'une cargaison de Lubin s'y était perdue, métallique et polie comme une plaque de coffre-fort à la banque de Monaco, noire comme si on y avait mis à tremper des notaires, verte comme l'absinthe, chatoyante au soleil comme le dos grenu d'un lézard, lumineuse et nacrée comme si toute la nacre de ses coquilles et toutes les perles de ses huîtres y nageaient, dissoutes par le caprice d'une Cléopâtre devenue déesse. Je l'ai vue en or, je l'ai vue en sang, toute de soleil et de corail, je l'ai vue phosphorescente un beau soir, mais jamais je ne l'ai vue bleue. « C'est pourtant vrai, » dit le romancier. « Absolument vrai, » affirma le musicien. « Je continue, » reprit le peintre. « Il y a 2 jours, brin de boulot, ma maîtresse et la vôtre. Ne rougissez pas, je savais tout. Donc, brin de boulot, il y a 2 jours, ouvrant ses grands yeux puis les refermant, avec cette adorable lenteur qu'elle met à dire des bêtises, déclare à Canis, sur la côte, la mer ne pouvait pas être bleue, vu qu'il tombe trop de choses dedans. » Tandis qu'elle devait l'être là-bas, vers le large, plus près du ciel. Les paroles de Brin de Boulot sont des ordres. Nous louâmes un petit bateau, immédiatement rebaptisé le Singe Rouge, en l'honneur du héros grec si mal taillé qui orne sa proue. Bon vent, pas de lame, on part à la découverte de l'azur. Brin de Boulot était ravi, faisant surtout 1000 questions enfantines, si la mer a partout des bords, et comment s'arrangent les poissons pour n'avoir pas soif, puisqu'ils vivent dans l'eau salée? Mais vers midi, la houle survint et la fête se gâta. Saint-Honorat était en vue. Il fallut y débarquer Brin de Boulot, qui pleura et fit une scène, nous rendant tous les 3 responsables de son mal de mer, appelant notre promenade une amère plaisanterie et déclarant qu'elle entendait ne retourner à Nice que par terre. Après avoir vainement essayé de faire comprendre à Brindeboulot ce que c'est qu'une île, nous nous résignâmes. Et maintenant, nous voilà réduits à coloniser ce rocher désert jusqu'à ce que Brindeboulot ait oublié son mal de mer ou qu'un isthme pousse à notre île comme une queue à une grenouille. « C'est amusant, Saint-Honorat, » dit le musicien. « Oui, pour dormir toute la journée dans les myrtes sous prétexte de contrepoint. » « Très amusant, » affirma le romancier. « Sans doute, pour intoxiquer de romans malsains une brave fille et lui faire croire que nous écumons la mer en pirate toutes les fois que le bateau va chercher une livre de sucre aux épiceries de Cannes ou du Golfe Juan. Bref, cela vous amuse, moi cela m'ennuie. Antibes est charmant. Mademoiselle Cyprienne adorable. » La belle malice. De plus, au dire des capitaines, la mer est plus souvent bleue au Bigorneau qu'ailleurs. J'ai besoin de peindre ici. Partez sans moi sur le singe rouge. Parfaitement. Et Brindeboulot ? Brindeboulot, vous lui conterez ce que vous voudrez. L'enfant croira tout, elle est si bête.